Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, 13h sur Radio SBS, vous écoutez le programme en français, je m'appelle Marianne Murat, nous allons passer Rue Nord ensemble, on commence tout de suite avec le journal. Les titres de ce jeudi 27 mars 2025, réaction de l'opposition au budget préélectoral du gouvernement, que ferait différemment Peter Dutton ? Réponse dans un instant. La bourde qui embarrasse la Maison Blanche, des échanges confidentiels de frappes aériennes au Yémen envoyés à un journaliste, Donald Trump minimise. Deuxième jour de réquisitoire au procès de Nicolas Sarkozy pour financement illégal de campagne et le parquet qui demande que l'ancien président français soit reconnu coupable. Plus d'informations à la fin de ce journal. Et enfin, un mot de sport avec la défaite du Brésil en qualification à la Coupe du Monde 2026, tout simplement humilié par une Argentine qui a fait honneur à son statut de championne du monde en titre. Un peu de patience, on en parle dans le journal des sports de Christophe Mallet dans 15 minutes. La campagne électorale se poursuit et bat son plein. Hier, le gouvernement fédéral présentait son plan budgétaire, rejeté en bloc par l'opposition qui assure que si elle était élue, elle le retoquerait. On écoute le porte-parole Angus Taylor.
Well, at the end of the day, you got to get the balance right between relief, which is targeted, but being responsible as well. And the truth of the matter is that Labor has lost all sense of responsibility, $170 billion of deficits over the coming years. And frankly, that's putting in Australia in a position where we've got no shock absorbers, no capacity to deal with a very uncertain world. And one or another, Australians are going to pay a high price for a government that has lost control of its budget.
Voilà Angus Taylor et de son côté, Peter Dutton, chef de l'opposition, commence à égrener sa riposte. Il assure qu'il réduirait immédiatement le prix du carburant, moins 25 centimes par litre pendant un an. Un coup de pouce pour les ménages qui coûterait au gouvernement 6 milliards de dollars au total. Après le coup de la vie, c'est sur la thématique migratoire que l'opposition a attaqué le gouvernement. Peter Dutton accuse Anthony Albanese d'avoir accueilli 1,8 million de migrants, alors que le gouvernement n'en fait déjà pas assez pour aider ses compatriotes en pleine crise du logement notamment. C'est ce que l'opposition déclare. Le Premier ministre s'est défendu au micro de SBS.
We think that migration is important, but we of course have numbers that are lower than were anticipated in 2019. What we saw was border closures, and then when they opened, of course we saw a short-term increase, but we need to make sure that we manage these issues appropriately, and that's what my government is doing.
Autre réaction au budget fédéral, celle des groupes des Premières Nations. Ils affirment que les 1,3 milliard de dollars prévus pour les initiatives visant à combler l'écart constituent un bon début. En effet, le budget préélectoral du gouvernement prévoit un financement pour les services à distance, les opportunités commerciales et l'accession à la propriété pour les Premières Nations. La directrice générale du secrétariat national des services de garde d'enfants autochtones et insulaires, Catherine Liddell, a déclaré à NITV News que ce financement constituait un premier pas vers un véritable changement.
We can see some of those priorities starting to land in the way that they should be landing. What will be important now is the next step. And that next step means really investing in the community-controlled sector, ensuring that our community's voices are informing how those dollars hit the ground.
Et pour plus d'informations concernant le budget fédéral préélectoral, restez sur SBS French. On en parle plus tard dans l'émission, dans notre chronique Économie. Dans l'actualité internationale, on en parlait en titre, un journaliste destinataire par erreur de messages confidentiels concernant un plan de frappe américaine contre les outils au Yémen. La bonne affaire pour le journal The Atlantic qui publie en intégralité les échanges entre le secrétaire à la Défense et d'autres hauts responsables. La Maison Blanche tente de minimiser sa bourde en parlant d'un simple pépin émanant d'un journaliste tordu, je cite, les précisions de Lubna Anaki pour Radio France Internationale.
Depuis la publication du premier article où le rédacteur en chef de The Atlantic raconte comment il s'est retrouvé ajouté à un groupe de discussion non sécurisé où de hauts responsables discutaient de frappes militaires au Yémen, l'administration Trump ne cesse de répéter que les informations partagées n'étaient pas du tout protégées par le secret défense. The Atlantic a donc décidé de tout publier. Des captures d'écran montrent notamment les messages envoyés par Pete Hegseth. Le secrétaire à la défense partage les horaires précises du début des raids menés contre les outils. Il partage le type d'avion, l'armement utilisé et à la fin des raids, quelqu'un décrit même la frappe contre l'une des cibles, un homme qui rejoignait sa petite amie et dont l'immeuble a été bombardé. Difficile d'imaginer que ces détails ne soient pas hautement sensibles, alors qu'hier, certains responsables du renseignement au sein de l'administration Trump ont démenti que des horaires ou des précisions sur les avions aient été partagés. Malgré ces nouvelles révélations, la Maison-Blanche reste sur sa ligne de défense, affirmant qu'aucun aucune information partagée n'était secret défense. Le vice-président J.D. Vance, qui faisait partie de ce groupe de discussion, a accusé The Atlantic d'avoir survendu ses révélations. Pas de localisation, pas de source, pas de plan d'attaque, a écrit pour sa part Mike Waltz, le conseiller à la sécurité nationale.
Voilà pour le Yémen. Le président américain vise également le Groenland. Il nous faut le Groenland, c'est ce qu'il a déclaré deux jours avant la visite de son vice-président J.D. Vance. De quoi relancer les inquiétudes et la colère du Danemark qui gouverne ce territoire autonome. Cette visite officielle sera certes limitée à la seule base militaire américaine sur place. C'est une île dont nous avons besoin d'un point de vue défensif et offensif, a insisté Donald Trump. Pas de trêve dans la guerre en Ukraine. Après avoir trouvé un accord avec l'aide des États-Unis pour cesser les hostilités en mer Noire, Kiev et Moscou s'accusent déjà mutuellement de vouloir faire échouer cet accord. Ulrich Buna, analyste géopolitique spécialiste de l'Europe.
C'est un peu tout le problème de ce début d'accord proposé par Donald Trump. Finalement, on est sur un accord suffisamment flou pour que chacun interprète un petit peu l'accord à sa façon et pour essayer de pousser finalement son interprétation. Pareil sur la date de début finalement de ce cessez-le-feu, il n'y a absolument rien de clair. Les Russes disent qu'il faut lever d'abord les sanctions sur les banques russes et les reconnecter à SWIFT, et il semblerait que les Ukrainiens partent du principe que la trêve commence aujourd'hui. Donc on voit bien qu'effectivement Donald Trump, derrière son art du deal, a pour le coup proposé un deal qui est plus que flou, qui finalement in fine pourrait n'engager pas grand monde.
Excusez-moi, ce sont les aléas du direct, j'avais besoin de boire un petit verre d'eau, ça va mieux. Donc c'est dans ce contexte que Volodymyr Zelensky a rencontré Emmanuel Macron à Paris hier. Le président français affirme que la Russie doit accepter un cessez-le-feu dans les 30 jours sans condition préalable, tout en annonçant une enveloppe de 2 milliards d'euros d'aide militaire supplémentaire, ce qui va donc à l'encontre des revendications russes. De son côté, le président ukrainien dit attendre des États-Unis qu'ils garantissent que le cessez-le-feu annoncé soit sans condition également. Des centaines de manifestants dans le nord de Gaza contre le Hamas, du jamais vu depuis le début de la guerre. Bientôt 18 mois de bombardements et ces Palestiniens en appellent à la fin du conflit. Mahmoud Al-Ahmed est physicien, il fait partie des manifestants et pense qu'un comité neutre non partisan devrait gouverner la bande de Gaza. Écoutez.
Our message that we want to deliver, first to the Israeli occupation, stop the war, stop the bloodshed that is happening. We can't tolerate any more. The second message is to Hamas, the government of Hamas. Brothers, we've had enough. I swear to God, we're tired. There's nothing. There's no house to stay. No food, no salary, no family members remaining. I have become disabled. Up until this point, it's enough.
Et pour aller plus loin sur ce sujet, la correspondance de Sami Bourhelifa à Jérusalem.
Des manifestations inédites dans la bande de Gaza. Du nord au sud de l'enclave, les Gazaouis gagnent la rue. À Beit Lahia, Gazaville, Khan Younes, des rassemblements de quelques centaines de personnes à chaque fois. On évite les grands regroupements de peur d'être bombardés par les Israéliens, nous confie une Gazaoui. Le mot d'ordre de ce mouvement de protestation, la fin de la guerre et le départ du Hamas. Ce n'est pas contre les combattants palestiniens que nous nous soulevons. Leur lutte contre l'occupation israélienne est légitime, mais nous refusons désormais d'être dirigés par des responsables du Hamas installés confortablement à l'étranger. Ils n'ont aucune idée de ce que nous endurons ici, poursuit-elle. De l'autre côté du mur de séparation, en Israël, des milliers de manifestants organisent la mobilisation contre le gouvernement. Les rassemblements se multiplient à travers le pays. La rue reproche à Benjamin Netanyahou d'avoir abandonné les otages. Le premier ministre israélien a décidé de reprendre sa guerre meurtrière à Gaza le 18 mars dernier, en violant unilatéralement la trêve en vigueur depuis le mois de janvier. Les Israéliens accusent Benjamin Netanyahou d'avoir redéclenché le conflit de manière cynique. Cette guerre n'a plus aucun sens. Elle est motivée par la volonté de notre gouvernement d'accaparer la terre, la bande de Gaza, et non pas sauver la vie des otages, explique une manifestante israélienne. Vous alimentez l'anarchie, leur rétorque Benjamin Netanyahou.
Allez, on prend la direction de Paris pour finir ce journal avec l'affaire des soupçons de financement libyen. Le parquet de Paris réfute la thèse de la défense de Nicolas Sarkozy et réaffirme l'existence d'un pacte de corruption noué avec Kadhafi afin qu'il finance la campagne présidentielle de 2007. Au deuxième jour des réquisitoires, les magistrats ont passé en revue les nombreuses contreparties dont aurait bénéficié le régime libyen. Baptiste Coulon, RFI.
Contrepartie diplomatique. D'abord, en 2005, la Libye de Kadhafi veut sortir de son isolement international. La France lui en donne l'occasion. Car une fois président, en 2007, Nicolas Sarkozy accueille Muammar Kadhafi qui plante sa tente à Paris. Est-ce une contrepartie au pacte de corruption ? Le faste de cette visite est un marqueur fort qui va en ce sens, pointe le magistrat financier. Contreparties économiques aussi. Nicolas Sarkozy et ses collaborateurs auraient eu l'intention de vendre du matériel technologique français à la Libye. Mais le plus gênant pour la défense, ce sont les contreparties judiciaires. En l'occurrence, la levée du mandat d'arrêt international visant le beau-frère de Kadhafi, le terroriste Abdallah Senoussi. Dossier géré jusqu'à l'Elysée, et même si la manœuvre avait peu de chances d'aboutir, il fallait montrer aux Libyens que la France cherchait une solution, estime le procureur. Le magistrat étrille les arguments de la défense. Ni complot, ni revanche libyenne après l'intervention française de 2011, mais un pacte faustien conclu entre les protagonistes.
Et voilà, sans transition, un mot à la météo de ce jeudi après-midi. 37 degrés à Perth, grand soleil, 31 à Adélaïde, 23 à Melbourne, 21 à Hobart, 27 à Canberra. Il fait 27 à Sydney malgré des averses, 25 à Brisbane malgré la pluie, 29 à Cairns et 31 à Darwin. Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez sur SBS French, l'émission continue. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. On enchaîne avec le journal des sports. Il est signé Christophe Mallet.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Journal des sports, et on débute avec du football et la défaite incroyable, on peut le dire, du Brésil face à l'Argentine dans les matchs de qualification pour la Coupe du Monde donc de 2026. Le Brésil qui perd 4-1 contre les champions du monde, hein, les Argentins, 4-1 avec des buts argentins pour Alvarez, Fernandez, McAllister et j'allais dire le fils de son père, hein, Juliano Simeone, et un but de Cunha pour les Brésiliens. 4-1, la plus forte défaite du Brésil en match qualificatif depuis 1969. On écoute la réaction du capitaine du Paris Saint-Germain, le Brésilien Marquinhos.
En ce moment, nous traversons une période difficile. Maintenant, il faut partager la responsabilité avec tout le monde. L'entraîneur, nous, les joueurs, nous savons que nous devons en faire beaucoup plus. Dans ces moments compliqués, il faut toujours rester unis, car toutes les équipes ont connu des périodes difficiles. L'Argentine en a eu aussi, avant d'autres équipes également, et elles s'en sont sorties ensemble. ensemble, avec de la personnalité. C'est ce que nous devons faire.
Le Brésilien Marquinhos, donc capitaine du Paris Saint-Germain. Une réaction également, celle d'Éric Frozio. Il est journaliste sportif pour RFI au Brésil. Il revient sur l'atmosphère après ce match.
C'est une défaite qui fait mal. Ouais. Franchement, c'est presque du jamais vu. Hein. Prendre une telle claque, encaisser 4 buts par l'Argentine, c'est une première, hein, vous l'avez dit. On avait déjà vécu la première défaite des éliminatoires de la Coupe du Monde contre l'Argentine à la maison. C'était au Maracana. Et puis, ça s'enchaîne, en fait. Il y a aussi eu la première série de 3 défaites successives lors d'un éliminatoire. Tout ça dans la même campagne de qualification à la Coupe du Monde. Donc, ça fait beaucoup. Et puis, bah, l'humiliation, elle est encore plus terrible parce qu'il y a eu un peu de provocation. Et Rafinha qui s'est un peu laissé embarquer lors d'une interview avec Romario. Voilà, un peu provocateur comme il est toujours, Romario. Mm-hmm. Et puis Rafinha est tombé dans le piège, et puis ça n'a pas manqué d'exciter et de motiver encore plus les Argentins. Donc ouais, c'est une défaite qui fait très très mal et puis qui aura des conséquences forcément.
Voilà donc pour ce match Brésil-Argentine, défaite 4-1, une nouvelle fois du Brésil. On continue sur le football, carton plein pour les Anglais avec un nouvel entraîneur, Thomas Tuchel. On connaît Thomas Tuchel, c'était l'entraîneur du Paris Saint-Germain auparavant. Et bien, il est sélectionneur de l'équipe anglaise et depuis son arrivée, et bien, l'Angleterre ne fait que gagner. Antoine Grenier.
Sans briller plus que ça, mais en faisant le travail, victoire nette et sans bavure, 3-0 sur la modeste Lettonie. Deuxième journée de qualification, deuxième victoire, 5 buts marqués, 0 encaissés. Voilà qui permet au nouveau sélectionneur des Three Lions, l'allemand Thomas Tuchel, d'afficher une certaine sérénité.
Good start. I think we need exactly these kind of matches.
C'est un bon début. Je pense que nous avons besoin exactement de ce genre de match. Même dans la tension des éliminatoires de la Coupe du Monde, tout ne se met pas en place dès la première minute. C'est la grande leçon. Il reste encore de la place pour s'améliorer. Mais dans l'ensemble, nous avons 2 victoires sans encaisser de but, sans concéder de grosses occasions en 2 matchs. Donc il y a beaucoup de choses positives à retenir et encore de la place pour progresser. Les joueurs ont fait la différence, bien sûr, comme toujours. Ils m'ont rappelé instantanément pourquoi j'étais enthousiaste à l'idée de travailler avec eux. Je pense que nous avons eu d'excellents moments sur le terrain, mais aussi en dehors, une bonne énergie et une atmosphère très positive.
Voilà donc pour le foot anglais, direction l'Afrique et les matchs de qualification également de la Coupe du Monde. Et la victoire du Gabon 2-1 face au Kenya, le Gabon historique qui pourrait être aux portes de la qualification pour ce mondial avec un acteur principal, le capitaine de cette équipe, Pierre-Emerick Aubameyang, âgé de 35 ans. Aubameyang n'est plus frais que jamais, on l'écoute.
Se qualifier pour la Coupe du Monde serait quelque chose de fou, non seulement pour moi, mais pour tout le pays. Cela n'est jamais arrivé auparavant. C'est un grand objectif, un grand défi pour nous. Je pense que ce serait mon plus beau rêve et j'espère pouvoir le réaliser. Alors pourquoi pas malgré mon âge, après tout ce n'est qu'un chiffre. On voit des joueurs jouer jusqu'à 40, 41 ans. J'en ai seulement 35, donc j'ai encore du temps et je me sens bien. C'est le plus important. Tant que je me sentirai en bonne santé, je jouerai mon jeu et je ferai tout de mon mieux.
Pierre-Emerick Aubameyang, le capitaine gabonais. Direction le Sénégal maintenant. Edouard Mendy, le gardien du Sénégal, a accompagné son équipe sur une victoire de 2-0 face au Togo. Le Sénégal également aux portes de la qualification pour ce mondial américain. On écoute donc Edouard Mendy.
Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut retenir, la victoire. En première mi-temps, on était un peu en dedans. Je pense que dans les duels, on a été en deçà de ce qu'on pouvait faire. On a réglé ça en deuxième mi-temps, on a gratté des ballons plus haut, on a eu des bons temps de possession. Dans les duels, on a été beaucoup plus présents. C'est ce qu'il faut faire quand on joue à domicile et quand on est le Sénégal. Donc on va garder la deuxième mi-temps comme modèle, on va s'appuyer dessus. On sait que les prochains matchs vont être capitaux, donc à nous de bien les préparer et d'être prêts pour ces échéances.
Edouard Mendy, le gardien du Sénégal. Allez, un dernier mot de boxe, cette fois-ci, pour finir ce journal des sports. L'hommage de Souleymane Sissoko à un très grand de la boxe mondiale, George Foreman, qui s'est éteint cette semaine. George Foreman, qui avait fait des combats de légende contre Mohamed Ali, une carrière de légende également, George Foreman, donc, qui s'est éteint. Et Souleymane Sissoko, le boxeur français, français est à San Francisco, la ville même de George Foreman. On écoute sa réaction.
Moi, je l'ai senti autour de moi. En fait, c'est une icône. On a perdu une icône. Ils en parlent tous, surtout des anciens parlent de ça parce qu'il a représenté plus qu'un sportif. Et c'est vrai que ça a été triste d'accueillir cette mauvaise nouvelle. Mais George Foreman, il a beaucoup inspiré, surtout la jeunesse américaine. C'est un très grand champion, preuve de résilience aussi. Il a arrêté sa carrière pour être tourné vers autrui. Et puis derrière, il est revenu 10 ans plus tard, qu'il revient encore champion du monde. Et avant ça, il y a eu tout ce qui est toute la partie olympisme. Il a fait les Jeux olympiques, il a été champion olympique. Ça représente énormément dans ce pays. Et puis, devenir champion du monde à multiples reprises, c'était exceptionnel. Il a une carrière qui a été exceptionnelle. Un style vraiment unique en tant que poids lourd, et on parle toujours de lui aujourd'hui parce qu'il a vraiment beaucoup représenté.
Voilà, Souleymane Sissoko, ça conclut ce journal des sports pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
Paris, 48 degrés nord, 2 degrés est. 5h50, vous quittez votre appartement. Il fait encore nuit. Les néons claquent sur vos rétines. Votre avion amorce sa descente sur l'état du Victoria. 17h50, 37 degrés sud, 144 degrés est. Melbourne.
C'était Sophie Morin qui raconte son voyage entre Paris et Melbourne avec cette chanson intitulée Paris-Melbourne. Allez, place à l'économie où on va parler bien sûr du budget dévoilé par le gouvernement.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Allez, c'est l'heure de parler d'économie et comme chaque semaine, nous parlons de l'économie avec Nicolas Perpich. Bonjour Nicolas.
Bonjour Christophe.
Et on va parler bien entendu du budget, c'est la nouvelle de la semaine. Le budget fédéral qui a forcément attiré pas mal d'attention lors de sa publication. Attiré pas mal d'attention parce qu'il y a un point, il y a une surprise, les impôts pourraient baisser en Australie pour tout le monde.
Oui, tout à fait. Et en fait, on ne s'attendait pas à ça, mais c'est pas vraiment une surprise non plus parce que là, c'est sûr que le Premier ministre va très bientôt annoncer qu'on va passer aux élections. Là, ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'il y aura 17 milliards dollars de réduction des impôts pour tout le monde. Alors, ça veut dire qu'à partir de l'année prochaine, les gens vont économiser à peu près 5 dollars la semaine, et ça veut dire à peu près 268 dollars chaque année. Après, l'année d'après, ça sera 10 dollars par semaine que les gens vont économiser, ça veut dire à peu près 536 dollars la semaine d'après. Donc oui, c'est pas énorme non plus, mais aussi c'est quelque chose c'est vraiment un budget qui a été créé avec les élections en tête.
Ah, c'est clair. Enfin, on l'avait dit, hein, vous et moi, la semaine dernière. Hein, c'était les élections allaient gérer ce qui se passe au niveau du budget cette semaine et la réponse de l'opposition également. Hein.
Oui, voilà. Donc tout ce qu'on dit là et tout ce que le gouvernement a annoncé et tout ce que l'opposition critique, c'est avec en tête les élections et la réponse de nous, la population australienne, ce qu'on en pense. Hein. Donc en fait, le trésorier Jim Chalmers, il a même dit oui, là c'est la réduction d'impôts modeste. Il a compris que c'est pas énorme, mais en même temps il dit si on rajoute ça avec les autres choses que le gouvernement fait pour couper par exemple les factures d'électricité, pour couper le prix des médicaments, si on rassemble tout ça, ça fait une vraie différence pour les gens. Donc il espère lui que tout ça, ça va convaincre les gens à penser que le gouvernement essaye vraiment de les aider et là pour les soutenir pendant des moments difficiles, donc ils devraient voter pour eux. Et bien sûr, l'opposition, Angus Taylor, qui est le porte-parole pour les matières de trésorerie, lui, il a dit que, bon, ils vont pas soutenir ces réductions d'impôts, ce qui est assez rare quand même, ils vont pas les soutenir. Ils ont dit que vraiment c'est une blague méchante parce que c'est 73 centimes par jour. Donc ils disent que c'est rien, ça veut rien dire. C'est juste quelque chose pour faire
un effet d'annonce. Ouais. Oui, un effet d'annonce.
Mais il n'y a pas de substance. Donc il a indiqué que l'opposition va peut-être eux-mêmes annoncer quelque chose d'autre avant les élections. Mais ça reste à voir. Mais de toutes les façons, le gouvernement veut faire passer ça dans le Parlement la semaine prochaine. Mm-hmm. Comme ça, ils peuvent commencer la campagne électorale en disant qu'on a coupé les impôts, on a réduit les impôts pour les Australiens. Donc c'est vraiment une plateforme pour sauter en plein dans la campagne électorale. Tout de suite.
Mais on ne trompe pas un vieux briscard comme vous, Nicolas. Hein, c'est ça. Allez, parlons maintenant des entreprises du gaz, hein, les grandes compagnies qui exploitent le gaz en Australie et surtout qui l'exportent seront peut-être bientôt obligés d'en garder une certaine partie pour nous, pour les Australiens, pour le marché australien.
Oui, voilà. C'est un secteur énorme, ce secteur. C'est une industrie gigantesque. Ici en Australie, on exploite énormément de gaz, mais la majorité est exportée. Donc, on n'en voit pas trop ici. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est la coalition qui disent que, en fait, peut-être on devrait en garder plus pour nous-mêmes, que si eux, ils deviennent le gouvernement, ce qu'ils vont faire, c'est peut-être d'abord obliger ces grandes compagnies à en vendre au marché domestique ici en Australie, et en échange, ils vont donner le feu vert à plus de projets. Ils vont, par exemple, accepter des conditions environnementales plus facilement, ils ont dit. Alors ça serait l'échange. Et Labour a dit qu'ils vont probablement suivre. Donc ça serait pas étonnant si eux aussi ils annoncent quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose qui a été tabou ici en Australie depuis très longtemps, d'obliger des compagnies à agir d'une certaine façon, parce que ça c'est contre l'idée du marché libre. Mais quand même, ça existe déjà en Australie occidentale, où depuis un bon moment, ils ont ce qu'ils appellent un domestic gas reserve policy. Ça veut dire que les compagnies là-bas sont obligées de réserver 10% du gaz qui est produit pour le marché de l'Australie occidentale. Et c'est vraiment là, au large du nord-ouest de l'État, qu'il y a une quantité énorme, gigantesque de production de gaz. Bon, le problème, c'est que ça marche pour le marché de l'Australie occidentale, mais ça reste là-bas, parce que ce marché-là est complètement séparé du reste du pays, où il y a un marché des autres États qui est coupé, le pays vraiment coupé en deux par un énorme désert. Donc ça marche là-bas, mais ça n'aide pas les gens et le prix de l'électricité, le prix du gaz dans les autres États. Donc c'est pour ça que maintenant on commence à parler de ça. Et si ça se passe, ça serait assez étonnant, parce que quand ça s'était annoncé en Australie occidentale, ça a été énormément critiqué par les compagnies elles-mêmes, mais aussi par la coalition, par la droite ici en Australie. Donc si c'est maintenant eux qui poussent ça, parce qu'ils disent que c'est eux qui vont réduire le prix de l'énergie pour nous, ça sera vraiment intéressant, assez étonnant.
Ouais, ce sera le très beau monde de la politique comme on l'aime, hein. Comme on l'aime, le monde de la politique. Merci Nicolas d'avoir décrypté pour nous l'actualité économique de cette semaine.
Merci beaucoup Christophe.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
De fuir le présent, s'il te plaît, ouvre les yeux.
Puis la mélancolie, je la mêle au présent. C'est la belle embellie, des souvenirs apaisants et les belles années.
Grand Corps Malade avec Kimber Rose et cette chanson de 2020, Nos plus belles années. Après le sport et l'écho, on va parler santé à présent. Encore 4 jours de mois de mars où l'on sensibilise à l'endométriose. L'occasion de faire la lumière sur LIV, première thérapie numérique en France pour améliorer la vie de millions de femmes. Nous avons rencontré sa cofondatrice Hélène Antier. Elle nous parle de son concept, de la maladie et des progrès de la recherche et de la prise de conscience collective.
Merci d'écouter SBS French. Rendez-vous sur notre site sbs.com.au/french.
On est avec Hélène Antier, cofondatrice de LIV. Hélène, bonjour. On va parler de votre entreprise dans un instant, votre entreprise en plein essor, hein, il faut le dire. Mais avant, on est au mois de mars, c'est le mois de sensibilisation à l'endométriose. Je voudrais qu'on fasse un point de situation. Et donc, pour commencer, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup, Marianne.
L'endométriose, Hélène, c'est une femme sur 10 dans le monde. Ça fait tout de même 180 millions de personnes. 70% d'entre elles souffrent de douleurs chroniques, souvent invalidantes, Hélène, et il n'existe à ce jour aucun traitement curatif. Ce constat est accablant. Et quand on entend endométriose, on pense souffrance et errance. Mais vous, précisément, vous parlez d'errance au pluriel. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ?
Oui, absolument. En fait, on a évidemment cette errance diagnostique dont on parle et il faut en parler puisqu'il faut encore en moyenne 7 ans pour poser un diagnostic en France. Les patientes passent d'un médecin à un autre, subissent des examens parfois inutiles ou mal interprétés. Il y a aussi une banalisation de leur douleur, donc il faut en parler. Il y a aussi une errance médicale pour celles qui sont diagnostiquées, mais elles n'ont pas toujours accès aux spécialistes ou aux centres de référence. Il y a aussi une inégalité des soins sur le territoire. Et il y a une errance dont on parle très peu et nous, on avait vraiment absolument envie de sensibiliser sur cette errance-là, c'est l'errance post-diagnostique, puisque une fois le diagnostic posé, beaucoup de patientes se retrouvent vraiment démunies, sans solution concrète pour mieux vivre avec la maladie. Et donc souvent, les traitements existants sont insuffisants ou pas forcément bien tolérés. Elles doivent se débrouiller seules avec des solutions plus ou moins adaptées. Et donc, on a voulu vraiment nous prendre la parole et sensibiliser le grand public à l'errance d'après. Et on a lancé notamment une grande campagne de sensibilisation en ce mois de mars qui s'appelle « Et après », avec des témoignages de patientes, des témoignages d'aidants, mais aussi de médecins et de professionnels de santé. Donc, vous pouvez retrouver cette campagne sur tous nos réseaux.
D'accord, parce que justement, c'est après le diagnostic que vous, Hélène, vous entrez en jeu. Vous avez monté une compagnie, LIV, on va en parler. Et votre objectif, il est ambitieux, hein, soyons honnêtes, changer radicalement la vie de millions de personnes atteintes d'endométriose. Comment vous faites ?
Oui, alors déjà, effectivement, cet objectif est extrêmement ambitieux. Il est à la hauteur du problème. Et donc, chez LIV, on a créé LIV Endo, qui est la première thérapie numérique française qui permet aux patients d'agir sur leurs symptômes et leur qualité de vie grâce à une approche qui est pluridisciplinaire. Donc, on a mis en place une application qui leur donne vraiment des outils concrets, validés scientifiquement, autour de différents piliers que je peux vous présenter. Donc le premier pilier essentiel est celui de la compréhension et de la connaissance de la maladie pour faire des patientes éclairées et prêtes à passer à l'action. Et ensuite, on a 4 piliers d'action. Le premier, c'est celui de l'activité physique adaptée, donc pour apaiser les douleurs, améliorer la mobilité, prendre du plaisir à se remettre en mouvement. Le deuxième pilier, c'est l'alimentation, donc pour réduire l'inflammation et les symptômes. Le pilier suivant est le bien-être mental, donc la santé mentale et cognitive, puisque la maladie affecte aussi la santé psychologique. Et enfin, un pilier autour de la vie affective et sexuelle, un sujet qui est encore tabou. Et donc, on souhaitait évidemment agir sur tous ces symptômes. Donc, en créant une application pluridisciplinaire, un programme d'action personnalisé pour chacune en fonction de leurs symptômes personnel et donc bien sûr en complément du suivi du parcours médical. Donc ça ne remplace pas le parcours de soins, on est là pour le compléter et permettre aux femmes d'être autonomes dans l'autogestion de leurs symptômes.
Mais il y a un truc qu'on ne comprend pas bien, Hélène. Pour une maladie qui touche 190 millions de femmes dans le monde qui existent depuis la nuit des temps, on connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui souffre d'endométriose. Je peux pas m'empêcher de penser que la concurrence devait être énorme. Ce que vous nous citez là, ça devrait déjà exister depuis bien longtemps, mais c'est pas le cas.
Aujourd'hui, en fait, l'IVE, donc l'IVE endo, est la seule thérapie numérique dédiée à l'endométriose en France. En fait, on propose un programme qui agit directement, nous, sur la santé en fonction des symptômes spécifiques à chacune. Contrairement aux autres applications que vous connaissez peut-être, donc autour de l'endométriose aussi, mais qui, elles, se limitent au suivi des symptômes ou aux conseils généraux, donc qui sont dans une catégorie de bien-être, ou encore au diagnostic de la maladie, donc dans une visée de diagnostic. Donc l'IVE, aujourd'hui, est le seul dispositif médical numérique développé avec cette approche scientifique, qui donc a démontré scientifiquement une amélioration de la qualité de vie des patientes et donc de la santé des patientes. Et donc, de la même manière, notre efficacité repose sur des données probantes, avec un protocole structuré, une intégration dans le parcours de soins, ce qui nous différencie complètement. Donc, en gros, pour faire simple, on ne se contente pas d'informer, on agit concrètement sur les symptômes et la qualité de vie des femmes.
Oui, c'est ça, la science est au cœur de votre projet. C'est pas que des ressentis, des témoignages, c'est vraiment scientifique.
Absolument. Notre approche, elle repose à la fois sur les revues de littérature scientifique, sur les recommandations des centres experts en endométriose. On fait équipe aussi, bien sûr, avec un comité scientifique composé de médecins, de chercheurs, de professionnels de santé et de plusieurs dizaines de professionnels de santé, notamment dans nos programmes. On a aussi une première étude en vie réelle qui a déjà démontré des résultats positifs. Donc, j'entends par là l'amélioration de la qualité de vie et des symptômes dès 3 mois de programme, qui a été publié dans le Journal of Medical Internet Research Formative Research, avec mon accent incroyable. Et on a une étude clinique qui va démarrer très prochainement pour mesurer toujours l'efficacité de notre approche. Et pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on vise un remboursement par la sécurité sociale et une prescription par les médecins. Donc pour nous, cette approche rigoureuse, elle est essentielle pour être connue comme un acteur de référence dans la prise en charge de l'endométriose.
Et au niveau des médecins, est-ce que ça a été bien reçu ou est-ce qu'on est encore dans ces obstacles permanents de pouvoir s'entendre dire que l'endométriose est une maladie à la mode, ou est-ce que des médecins se sont sentis menacés, si je puis dire, qu'on fasse quelque chose? Est-ce que vous avez senti une certaine réticence, du monde médical?
Évidemment, il y a toujours des médecins qui considèrent, comme vous le disiez, que c'est la maladie à la mode ou que les femmes en rajoutent, etc. Donc ça, c'est toujours le cas. En revanche, nous, en tant que LIV, on a un réel enthousiasme du côté des professionnels de santé qui se sentent eux aussi démunis. Et c'est ça qui a été vraiment passionnant au début de LIV. C'est-à-dire que j'ai pu rencontrer des centaines de patientes, mais aussi un grand nombre de professionnels de santé. Et en fait, ce que j'ai pu observer, c'est que qu'ils soient experts du sujet ou non experts, ils étaient tous démunis, puisque les experts font face à un trop grand nombre de femmes qui souhaitent pouvoir entrer en contact avec eux et les consulter. Malheureusement, ils n'ont que 24 heures par jour. Et tous ceux qui ne sont pas experts étaient très frustrés de ne pas pouvoir apporter des réponses plus concrètes à leurs patientes. Donc nous, on ressent vraiment cet enthousiasme. À côté de ça, bien sûr, on a un travail d'évangélisation de l'apport des thérapies numériques à faire qui est évidemment énorme, puisque c'est vraiment une révolution des usages en santé. Et ce qu'on voit, c'est que beaucoup ont très envie d'y participer. Donc, de plus en plus de médecins reconnaissent l'intérêt des thérapies numériques, voient très bien ce que ça va pouvoir leur apporter dans leur pratique et pour leurs patientes, bien sûr. On travaille déjà, nous, avec de très nombreux professionnels de santé, des centres experts, des hôpitaux aussi. On sent l'engagement de ces professionnels de santé et c'est grâce à ça qu'on avance aussi vite aussi.
Mais du coup, avec cet engouement, est-ce que vous diriez que la souffrance liée à l'endométriose est de moins en moins invisibilisée?
On avance vraiment dans le bon sens autour de ce sujet, mais il y a encore énormément à faire et il y a des sujets dont on doit absolument s'emparer. Notamment ce sujet dont on parlait au début, donc c'est-à-dire cette errance post-diagnostique dont il faut continuer à parler, puisque après le diagnostic, c'est le début d'une nouvelle errance, il faut absolument le faire savoir. Aujourd'hui, même la communication actuelle, elle réduit souvent le problème de l'endométriose au diagnostic, à la fertilité. Donc, ça dépeint pas du tout la réalité complexe de la maladie. On cherche aussi, nous, à faire reconnaître le caractère systémique de l'endométriose, puisqu'on parle donc de cette maladie qui se résume aux règles douloureuses, mais en fait, l'impact global sur le corps entier, les comorbidités associées, etc., doivent absolument être connus. Donc, notamment dans la définition de l'endométriose, aujourd'hui, on parle d'une maladie inflammatoire chronique à l'impact systémique et on ne la réduit pas à une maladie gynécologique puisqu'elle touche bien d'autres organes, donc ça c'est très important. Et on souhaite aussi bien sûr faire valoir les soins de support puisqu'il y a un retentissement systémique et des symptômes qui persistent dans plus de 80% des cas malgré une prise en charge médicale ou chirurgicale. Cette prise en charge pluridisciplinaire doit absolument être connue de tous et donc ça c'est extrêmement important à nos yeux aussi.
Important et positif, comme vous le disiez, ça va largement dans le bon sens. Et pour finir, Hélène, avant de se quitter, je voudrais quand même qu'on fasse un point. On a commencé par un point de situation au début. Revenons à ça. On en est où aujourd'hui en France dans la lutte contre l'endométriose? Les politiques s'en saisissent notamment.
Oui, alors il y a cette stratégie nationale, effectivement, qui a été lancée en janvier 2022. Je pense que, évidemment, aux yeux de chacun, ça prend trop de temps. Même si nous, ce que l'on peut observer, c'est que ça avance quand même, notamment, par exemple, sur le volet endométriose et vie professionnelle. Il y a réellement eu des avancées ces derniers temps. On a pu, nous aussi, être reçus à différents moments pour faire part de nos constats et des solutions proposées. Donc, on voit qu'il y a vraiment une volonté d'agir, même si, évidemment, on aimerait que ça aille toujours plus vite. On perçoit, nous, chez LIF, cette volonté d'agir et le fait d'être consulté régulièrement montre aussi qu'il y a de l'écoute. Après, il y a la connaissance, je dirais, du public. Donc là, il reste du chemin à faire, des tabous à faire sauter encore et encore. Donc on y contribue au maximum. Il y a le sujet de la formation des médecins, donc qui clairement est encore insuffisante, autant au moment du diagnostic que de l'après-diagnostic. Donc ça, c'est absolument fondamental, bien sûr. Et puis, en termes de traitement, il n'y a toujours aucun traitement curatif. Donc voilà, nous, c'est la raison pour laquelle on existe aussi, c'est agir en complément du parcours de soins pour autonomiser les femmes dans la gestion de leurs symptômes et pour améliorer leur qualité de vie.
Et le mot de la fin, Hélène, autorisons-nous à rêver. Quels sont vos espoirs à partir de maintenant?
Alors nous, notre espoir est très grand, c'est-à-dire qu'on vise vraiment ce remboursement de l'IV endo, donc par la sécurité sociale pour une prescription par les médecins, afin vraiment de rendre accessible notre solution au plus grand nombre de femmes sans discrimination financière. C'est extrêmement important à nos yeux. Donc ça passe par poursuivre nos études et démontrer scientifiquement notre impact. Et je voudrais aujourd'hui lancer un appel au plus grand nombre de femmes. Donc si vous êtes concernées par l'endométriose, on aimerait vous proposer de contribuer à la recherche en suivant l'évolution de vos symptômes et de votre qualité de vie. Donc sur l'IV endo suivi pendant 3 mois, donc à raison de un questionnaire de 5 minutes par mois. Et dans le cadre de notre étude, pour vous remercier, nous pourrons vous offrir gratuitement l'accès privilégié à la version complète de notre application, l'IV endo thérapie numérique. Et votre contribution est absolument cruciale, à la fois pour contribuer à la recherche sur l'endométriose, mais aussi nous aider à massifier l'accès à cette thérapie numérique pour le plus grand nombre de femmes.
Merci beaucoup Hélène. Avec la publication de cette interview, j'espère qu'on va contribuer également à aider à la recherche contre l'endométriose. Merci beaucoup. Et je tiens à dire également que vous serez également invité du 8e et dernier épisode du podcast Happy Endo, ce podcast publié par SBS French depuis maintenant plus de 2 ans et dont le 8e épisode va sortir dans les prochains mois. Hélène, vous êtes extrêmement sollicitée, très occupée. Je vous remercie sincèrement de nous avoir accordé du temps.
Un grand merci, Marianne. Au revoir.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
13h58 sur SBS French, c'est l'heure du rappel des titres. L'opposition tacle le budget préélectoral du gouvernement. Peter Dutton reproche à Anthony Albanese de ne pas prendre en compte la crise du coût de la vie et d'en être complice avec sa politique migratoire. Le journal américain The Atlantic publie en intégralité des échanges confidentiels à propos de frappes américaines au Yémen, bourde de la Maison-Blanche qui a envoyé les messages à un journaliste de la rédaction. Et enfin, en France, le parquet demande que Nicolas Sarkozy soit reconnu coupable de financement illégal de campagne. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission. Elle est maintenant terminée, mais vous pouvez la retrouver en intégralité sur notre site internet SBS French, ainsi que sur les plateformes de podcast comme Spotify, Apple Podcast ou encore Deezer. Votre prochain rendez-vous avec l'information, c'est ce week-end, samedi et dimanche, puis en direct mardi à 13h sur la même fréquence. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir, messieurs, dames.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.